Le grelot. Je devais avoir 6 à 7 ans quand mon grand-père Jean me raconta cette histoire pour la première fois. C'était une histoire vraie, comme je disais alors, et je me demande maintenant si je saurais vous la dire avec la simplicité et l'émotion qui étaient les deux grandes qualités de ce conteur que j'adorais. Donc, il me prit un soir sur ses genoux, dans le cantou, où les châtaignes fumaient doucement sous la cendre chaude, et il commença. J'avais à peu près ton âge quand mon père décida un soir de m'amener chez Mathieu le colporteur, qui devait lui acheter des mètres de drap. Mon père Marcelin, tu le sais, était tisserand, et sa toile passait pour la plus belle à des lieux à la ronde autour de Fontpeyre. Moi, je menais une vie de petit sauvage, je gardais les moutons et je tressais des paniers d'osier. Quelques jours avant cette histoire, une brebis venait de mettre bas et je promenais le nouveau-né dans mes bras, ne le rendant à sa mère que pour l'allaiter et la nuit, quand le troupeau rentrait à l'étable. Un soir donc, nous partîmes de Fontpeyre à la nuit tombante. On était en novembre, quelques jours après la Toussaint. Mon père me tenait par la main et je me sentais tout fier d'affronter le froid et la nuit. Je savais que je ne risquais rien des fantômes ou des farfadets qui hantent les chemins noirs. Les larges épaules de mon père et son gourdin qui ronflait en tournant autour de son poignet suffisaient à me défendre. Chez Mathieu, le couvert était déjà mis. On ajouta une assiette pour moi et on me fit une petite place sur le banc. Un unique chalet était suspendu au-dessus de la table. La plus grande lueur venait du feu qui pétillait joyeusement en donnant de belles flammes oranges comme un soleil couchant. Après le repas, fait de soupe de choux, de mique et de fromage de chèvre, mon père et Mathieu se mirent à discuter en alignant des chiffres et en comptant à haute voix. Je me laissai glisser du banc et j'allai m'asseoir dans le cantou sur un petit coffre de bois. Les femmes faisaient la vaisselle dans une grosse marmite fumante qu'elles avaient descendue de la crémaillère. Personne ne faisait attention à moi. Je pouvais rêver ou me raconter des histoires à mon aise en regardant les grandes ombres qui dansaient sur les poutres noircies par la fumée. Soudain, dans le creux d'un chenet, j'aperçus un objet rond et brillant. Instinctivement, j'avançai la main et je pris l'objet. C'était un petit grelot de cuivre qui tinta au creux de ma paume. Mon cœur se mit à battre très vite, car une pensée avait pris possession de mon esprit. J'étais vraiment possédé par cette idée. Je voulais le grelot. Je savais que personne ne m'avait vu. Qui donc s'apercevrait de sa disparition? On pourrait croire qu'il était tombé dans le foyer et que les cendres l'avaient englouti. Mon Dieu, comme ce grelot irait bien au cou de mon petit mouton et comme il tinterait joyeusement au flanc de la colline. Je mis mon larcin dans ma poche et ne bougeai plus. Il me tardait de rentrer à la maison pour m'endormir avec le grelot sous mon traversin. Enfin, mon père se leva, salua la compagnie et on se mit en route. Mais je m'aperçus bien vite qu'à chacun de mes pas, le grelot faisait entendre son bruit joyeux. J'avais beau le serrer dans ma paume, au fond de ma poche, rien n'y faisait. Mon père s'arrêta. « C'est toi qui fais ce bruit, Jean-Tout ?» me dit-il. « Oh non, ce n'est pas moi. »« C'est bizarre, » murmura-t-il. Et il se mit à avancer à grands pas. Je dus me mettre à courir pour le rattraper, et ma course précipita l'éteintement du grelot. « Ça suffit, mon garçon, » me dit sèchement mon père. « Donne-moi ce que tu as dans ta poche. Allons, donne !» Cet ordre était sans réplique. Je sortis le grelot de ma poche et je le tendis à mon père qui leva sa lanterne. Dans ma paume, le petit grelot se mit à luire comme un morceau d'étoile. « Tu as volé ce grelot chez Mathieu, petit misérable. Pour te punir, tu vas aller le lui rapporter tout de suite. » Et je ne t'attends pas, tu rentreras seul à la maison. » Et il partit sur le chemin à grandes enjambées. Je restai un moment sans bouger. Sur mes joues, je sentais des larmes et mon cœur battait à coups précipités. Je voyais au loin la lanterne de mon père qui semblait avancer seule en se balançant à travers les branches. Il fallait donc obéir. Je rebroussais chemin en courant. Tout était éteint chez Mathieu quand j'arrivais devant la porte, que je cognais de mon petit poing. Au bout d'un moment, j'entendis un remue-ménage et Mathieu entr'ouvrit la porte, son bonnet de coton sur la tête. Il baissa sa lanterne vers moi. « Que viens-tu faire ici, Gentou ?» me dit-il. « Tu as perdu ton père ?»« Non, dis-je, je viens vous rapporter le gros lot. » Et je lui mis mon trésor dans la main. « Tu es venu me réveiller pour ça ?»« Oh, tu aurais pu attendre à demain !» Et il me le claqua à la porte au nez. Ce que fut mon retour à Fond-Père, je n'étais pas prêt de l'oublier. Et les histoires de la guerre de 70 que j'entendais raconter n'atteignaient pas en horreur cette nuit épouvantable. Les chemins creux, où l'ombre de chaque arbre était un voleur ou un assassin, la lumière pâle de la lune qui courait sur les champs, les longs cris des hiboux, des chats-huants, toute cette vie inquiétante, grouillante, sournoise, qu'on n'entend pas quand on a la main blottie dans celle de son père, comme elle devient terrifiante quand on est seul et qu'on a 6 ans. Le plus épouvantable, ce fut de passer le long du mur du cimetière de Fanlac, où les lucioles dansent sur les rayons de lune en se précipitant à votre poursuite. Quand j'arrivai à Fond-Père, j'étais trempé de sueur et je grelottais d'angoisse. Tout était noir. Je poussai le loquet, traversai la cuisine, ouvris la porte de la chambre et me glissai tout habillé dans le lit que je partageais avec 2 de mes frères. Le lendemain, personne, pas même mon père, ne me parla du grelot. J'avais fauté, j'avais payé, et cela suffisait. « Mais tu peux me croire, » ajouta mon grand-père en terminant, « jamais plus je n'ai envié ni pris le bien d'autrui, jamais, pas même un petit grelot. »